Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Je vous écoute. Frédéric, de quoi souhaitez-vous nous parler ?
Je vais faire une synthèse.
Oui.
J'ai donc 40 ans.
Oui.
J'ai subi, étant enfant, des violences physiques et psychologiques de ma mère.
Oui.
Jusqu'à l'âge de 14 ans, où un jour je lui ai dit « si tu m'emmènes, je te la renverrai ».
Oui.
Et finalement, c'est ce qui a pris le relais, ce sont des violences psychologiques, des violences douces, où j'avais l'impression de... Je n'avais aucune estime de moi, je n'existais pas. Je me sentais rejeté.
Elle vous injuriait, elle vous humiliait ?
Oui, sale bête.
Oula.
Voilà, j'étais une sale bête. Donc j'ai grandi dans cet environnement et j'ai rencontré la mère de... J'ai une fille qui va sur ses 17 ans.
Et dans cet environnement, votre père était présent ?
Oui, il était absent en fait. Il était présent physiquement mais oui. Absent. C'est-à-dire il n'était pas dans son rôle de père, de protecteur.
De protecteur.
De se mettre entre ma mère et moi et de dire à ma mère tu ne le toucheras jamais. Tu ne le toucheras plus jamais.
Vous pensez qu'il savait ce qui se passait ?
Oui, il savait.
Vous avez eu des signes de ça, vous ?
Oui, tout à fait, puisqu'il y a 2 ans, pour être précis, c'était une date un peu clé. C'était le 25 décembre 2019, 2018, je ne sais plus. Bon, mais c'était en tout cas le 25 décembre. J'ai reparlé de ces violences avec ma mère, où je lui ai dit « j'attends ta demande de pardon
oui.
et ta t'aiderai aussi ». Mon père, donc le ton est monté, et mon père a dit « bon, on s'arrête, on discute d'autre chose ».
Donc il a fui.
Oui, il a fui.
Et cette fuite vous a donné l'idée que dans votre enfance, c'était déjà une fuite, c'était la même position.
C'est ça, c'était une maison avec un terrain, j'allais dans, quand je me faisais taper, ou que je subissais ces violences physiques, psychologiques, l'un ou l'autre, ou les deux, j'allais dans mon refuge, dans un coin du jardin, je m'asseyais, et puis je pleurais, je culpabilisais, je me disais, c'est ta faute, hein. Oui. T'avais qu'à mettre le couteau et la fourchette du bon côté de l'assiette.
Ça, peut-être, ça vaut la peine qu'on s'arrête un instant sur ce que vous dites. Effectivement, c'est hélas ce que se font les enfants. Parce que pour eux, comme la parole, surtout un enfant petit, bon, après, la faculté de juger se développe, mais un enfant petit, pour lui, ses parents, ce sont comme des dieux. Donc, ils ont une forme de toute-puissance, ils ne peuvent pas se tromper, leur parole est d'or. Et quand un parent dit qu'un enfant est moins que rien, sous toutes sortes de formes, ou le frappe, l'enfant retourne ça contre lui en se disant qu'il a mérité les châtiments ou qu'effectivement, il a mérité les humiliations verbales. Donc, c'est bien la culpabilité dont vous parlez qui est extrêmement douloureuse et destructrice.
C'est ça. Parce que j'ai fait ma vie, j'ai grandi avec ce sentiment d'impuissance, de ne pas être aimé.
De soumission aussi, c'est ce que vous entendez par impuissance. Oui.
Donc je m'oubliais et je n'avais pas trop d'amis.
Vous aviez des frères et sœurs, Frédéric, ou vous étiez enfant unique ?
Non, je suis le troisième enfant et j'ai un frère qui a une trisomie 21, c'est l'aîné, qui est très un handicap assez prononcé car j'ai reconnu différentes personnes de par l'association où étaient mes parents. Il y avait plusieurs types d'enfants qui avaient la trisomie 21.
Oui.
Certains s'exprimaient et étaient autonomes. Mon frère, ce n'était pas le cas. Il ne prononce pas un mot. Et ma sœur, elle est au milieu et elle a pris le relais. Dans l'adolescence, elle a pris le relais de ma mère quant aux violences psychologiques, les violences douces. J'ai été privé quand elle retrouvait des amis, de rester de visu dans la maison, il fallait que j'aille dans ma chambre, j'avais pas le droit d'en sortir, ce genre de choses.
Donc, toute votre enfance n'a été qu'une maltraitance?
Pas tout, mais un peu, beaucoup.
Et vous apprêtiez à nous parler donc, de votre fille de 17 ans, donc vous faisiez un saut dans votre vie d'adulte.
Oui, donc j'ai eu ma fille et j'ai surtout qui a été une bénédiction parce qu'on ce que on pourrait comprendre c'est que la première femme de votre vie, votre mère, elle ne vous montre elle vous montre qu'elle vous aime pas. Vous partez avec un côté négatif des femmes. Et c'est pour moi, je rêvais d'avoir un enfant, bien entendu, mais qui plus est une fille. Je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à aimer si ça avait été un garçon. Ce qui est assez paradoxal, mais je voulais une fille et j'ai été heureux à l'échographie quand on m'a dit que c'était une fille.
Et déjà, vous avez pu aimer la mère de votre fille?
J'ai pu aimer la mère.
De votre fille, malgré ce qui vous est arrivé dans votre histoire?
Bah oui, je l'aimais, oui. J'avais, mais j'ai eu le premier amour, j'avais 19 ans. Donc, je ne comprenais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'on pouvait trouver en moi de bien, m'apprécier, etc. Donc, le premier amour de ma vie, c'est elle qui est venue vers moi.
Oui.
Et après, donc, la deuxième. Compagne que j'ai eue, c'était la mère de ma fille. Et malheureusement, elle avait aussi ces difficultés qu'elle avait connues dans l'enfance.
Elle était maltraitée, elle aussi?
Oui. Je ne sais pas. Mais il y avait de la violence, en tout cas, entre ses parents. Son père, qui était gendarme, donnait des coups à sa mère et est parti. Donc, elle était dans l'adultère et finalement quitté sa famille.
Oui.
Et j'ai un peu repris son rôle puisque je suis devenu gendarme et j'ai aussi été l'auteur de violences conjugales.
Comment ça a commencé, les violences conjugales?
J'ai commis des violences conjugales sur la mère de ma fille.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, Frédéric?
La première fois, en fait,
oui.
C'est elle qui m'a mis une gifle. Bon, c'est disputé, elle m'a mis une gifle. Et je pense peut-être que c'est à ce moment-là que ça a déclenché chez moi. C'est les violences que j'avais subies d'une mère, etc.
C'était l'insupportable par excellence. Vous n'avez pas pu supporter la gifle.
C'est ça. Et peut-être, attention, s'il n'y avait pas eu la gifle, ça se serait peut-être produit, les violences que j'ai commises. Et ça n'explique de toute façon les violences que j'ai commises, les violences que j'ai subies, n'excuse pas la faute que j'ai en tant que co-auteur de violences.
Le fait de prendre vos responsabilités dans cette violence, ça vous honore. Mais il est certain que votre histoire détermine ce qui se passe. Enfin, et à la fois de votre côté et du côté de la mère de votre fille. Bien sûr que ça vous honore de ne pas chercher des excuses, comme vous dites, et de vous déresponsabiliser de votre faute. Mais enfin, vous avez l'un et l'autre une histoire avec la violence. C'est comme si, pour votre inconscient, la violence était quelque chose de normal, pas pour votre raison. Vous savez bien que c'est hors la loi. Mais l'inconscient... C'est pas que c'est normal, c'est qu'il a une certaine familiarité avec la violence. Donc pour lui, que les choses se traitent par la violence, c'est quelque chose qui est déjà connu. C'est comme Freud appelait ça un frayage, c'est comme une voie qui est déjà ouverte. Donc bon, il s'agit pas ni d'excuser ni d'absoudre, on n'est pas là pour ça. Mais il est certain que ce qui s'est passé dans votre histoire, ça joue son rôle dans les violences dont vous parlez.
On devient, attention au mot que je vais dire, on devient presque ami avec la violence parce que c'est le seul moyen qu'on a, qu'on connaît et qu'on a finalement
de familière.
Ouais. Voilà, C'est le seul moyen de s'exprimer, c'est parce qu'on n'a pas les mots et que c'est tellement ça manque tellement de ne pas avoir les mots, les paroles pour tout simplement s'expliquer, trouver des solutions, que c'est les gestes qui prennent le pas.
Je trouve votre analyse très juste et très fine de ce qu'on appelle le passage à l'acte en psychanalyse. Ce que vous dites, c'est que vous êtes passé directement des émotions qui vous animaient à ce moment-là, donc la révolte face à la gifle ou la colère face à elle, vous êtes passé directement de l'émotion à l'acte. Au fond, ce que vous dites, c'est que la pensée a été court-circuitée parce que les voies de la pensée n'ont pas été ouvertes, éduquées, exercées dans votre histoire, que vous n'avez pas appris ce qui est vraiment la base de l'éducation d'un enfant, c'est qu'on lui apprend à traiter par la parole, par la pensée. D'abord, il pense. Quand une émotion le submerge, il pense et il parle. Vous, ces voies-là n'ont pas été ouvertes du tout par l'éducation. On va supposer même qu'on puisse parler d'éducation tellement vous avez souffert, donc ça ouvre la voie au passage à l'acte. C'est qu'il y a un passage direct de l'émotion qui vous submerge au geste.
Mais du coup, c'est tout à fait logique que j'ai une bonne analyse, car voyez-vous, je donne des cours à Boris Cyrulnik, je ne sais pas si vous le connaissez.
Oui. Pardon, j'ai pas entendu vous donner des cours.
Ouais, j'ai tout appris à Boris Cyrulnik.
Oui.
Voilà, c'est pour ça que j'ai une très bonne...
Vous l'avez lu ou c'est lui qui vous suit ?
Non, c'est moi qui l'ai tout appris, en fait.
Oui, voilà. C'est-à-dire ? Quel lien avez-vous avec lui ?
Je lui ai tout appris, je suis son maître, en fait, si vous voulez, dans la psychanalyse, la résilience, etc. C'est moi qui l'ai tout appris. Donc, trêve de plaisanterie. Oui. Et voilà. Comment, quelle a été ma vie jusqu'à un jour où j'ai eu un grave accident. C'était en 2017, le jour de l'anniversaire de ma mère chez elle. Je faisais du jardinage, je coupais la vigne vierge sous les tuiles, je suis tombé du haut de l'échelle. Et là, j'ai été héliporté en neurochirurgie à Toulouse. J'ai subi on appelle ça une craniectomie décompressive, c'est-à-dire on vous enlève une partie osseuse du crâne qu'on congèle. Et j'ai passé un an entre tous les services. J'ai été hospitalisé pendant un an. Et depuis. Alors, je ne sais pas s'il y a une relation avec cette date précise, le 10 juin, qui est l'anniversaire, le jour de l'anniversaire de ma mère. Un énergéticien m'a dit qu'en fait, inconsciemment, j'avais voulu mettre fin à mes jours, ce jour précis, pour passer un message à ma mère, lui disant « tu as eu raison de moi ». Et voilà, donc ça relève un petit peu...
Qu'est-ce que vous en pensez de cette interprétation ? Comment vous la ressentez ?
Effectivement, quand il me l'a dit, c'est un peu ce que j'attendais, parce que moi-même, je me disais, ce n'est pas un hasard si j'ai eu cet accident chez elle le jour de son anniversaire. Mais je n'arrivais pas à expliquer pourquoi, mais je ressentais, j'avais cette intuition, je ressentais en moi que c'était pas un hasard.
Oui, il est clair que la relation est frappante entre sa date d'anniversaire et votre accident. En revanche, ce qui peut poser question, enfin, sauf si vous, l'interprétation vous convient, ce qui peut poser question, c'est la manière dont on l'interprète, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Lui dire « tu as eu raison de moi », bon, c'est une des interprétations possibles. Il y en a d'autres. Il y a une autre interprétation qui est de la punir par votre disparition. Ça arrive aussi que parfois, pour manifester la souffrance extrême envers que nous inflige quelqu'un, nous lui infligions la plus extrême des épreuves, qui est notre propre mort. Donc, c'est une autre interprétation possible. Bon, en tout cas, l'important, c'est celle qui vous parle à vous, celle qui fait sens pour vous.
J'en sais rien, alors c'est peut-être aussi pour la punir, je l'ignore.
Parce qu'en fait, cette interprétation, bon, je vais vous laisser poursuivre, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais tu as eu raison de moi, peut-être que c'est l'interprétation juste, mais elle suppose que vous perdiez la bataille d'une certaine manière et que vous vous soumettiez. Je suis pas sûre de ça. Je suis sûre de rien d'ailleurs, mais je pense qu'il y a une autre hypothèse qui est que il s'agissait pas tant de vous soumettre et d'assumer d'avoir perdu la bataille, peut-être d'éventuellement renverser quelque chose et que ce soit vous qui preniez la main sur la situation, même d'une façon tragique. Alors était-ce pour la punir? Était-ce pour témoigner de vos souffrances à l'extérieur, pour appeler à l'aide? Je ne sais pas. En tout cas, il me semble qu'il y a plusieurs interprétations possibles.
En tout cas, la mort n'a pas voulu de moi ce jour-là.
Et ça, il est clair que vous avez vécu. Donc il faut supposer que dans le rapport de force qui s'est produit dans votre inconscient, les choses ont basculé du côté de la vie et de l'envie de vivre.
Et paradoxalement, bien évidemment, j'ai été pris en charge par des professeurs, un professeur en neurochirurgie, et puis tout le personnel médical à qui je les remercierai jamais assez, bien entendu. Je vais peut-être parler de choses qui échappent aux gens ou que les gens sont dans le déni, refusent. Ce sont les croyances, chacun ses croyances, mais j'ai eu aussi pour moi une protection, parce que quand j'ai passé des examens plus tard en neurologie, etc., le personnel soignant qui me faisait par exemple un électroencéphalogramme, il me disait, vous savez, au vu de ce que vous avez eu, tout le monde ne s'en sort pas comme vous. Je lui dis, je peux bien vous croire, sans en être vraiment conscient, mais bon. Et depuis cet accident, là par contre, je dis d'un côté que c'est un mal pour un bien, parce que ça m'a fait changer, mon comportement a changé. Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je m'apprécie, je m'aime. Quand je me regarde, ça paraît peut-être égocentrique, mais quand je me regarde dans le miroir, je me dis, je m'aime bien. Alors que c'était impossible avant cet accident de me le dire ça.
Ce que vous dites à l'instant, Frédéric, ça m'inspire une autre interprétation possible de votre accident. Au fond, ce serait comme une sorte d'ordalie. Vous savez, c'est ce qu'on trouve dans la littérature. L'ordalie, c'est l'épreuve par laquelle nous remettons notre sort au destin avec un grand dé ou à une instance suprême. C'est comme relancer les dés de sa vie. Et en quelque sorte, c'est peut-être ce qu'on peut dire, c'est que cet accident, c'est comme si vous aviez mis en jeu votre propre vie pour pouvoir éprouver sa valeur. Vous auriez pu en mourir de cet accident, et là, votre vie se serait perdue. Et du fait qu'elle ait survécu à ce qui est arrivé sous la forme d'un miracle, n'est-ce pas une manière d'avoir mis en jeu votre vie et d'éprouver la valeur de cette vie, puisqu'elle est toujours présente au prix d'un miracle?
Mais je comprends pas pourquoi j'ai été protégé, ou je sais pas si c'est mon âme, ou j'en sais rien, comment ça se passe, je suis même pas baptisé pour vous dire, pourquoi? Parce qu'il y a plein de personnes qui l'auraient mérité plus que moi, et sachant que au vu des pensées que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire je ne veux plus vivre, je suis trop en souffrance, et je suis en équilibre sur un fil entre le choix de vivre et de mourir, j'y pense tout le temps, et ce depuis la fin de mon hospitalisation qui remonte à 2018, donc ça fait depuis 2018 que je lutte et que j'y pense souvent, à mettre fin à mes jours.
Mais en vous, Frédéric, il y a deux tendances qui sont très puissantes. Il y a ce qui est demeuré intact. Il y a des choses qui sont demeurées miraculeusement intactes en vous. D'abord, la capacité à aimer le féminin. Vous avez aimé la mère de votre fille, même si des choses ont mal tourné. Vous aimez votre fille qui va avoir 17 ans, vous nous l'avez dit. Ça fait partie des choses intactes, votre capacité à aimer. Il y a votre vie aussi qui est intacte. Après cet accident, vous auriez pu être affreusement handicapé ou n'être plus de ce monde. Donc il y a une part de vous qui est miraculeusement intacte à travers tout ce que vous traversez, liée à des...
Pardon. J'ai juste perdu l'essence du goût et de l'odorat.
Oui. Donc vous avez des traces et une partie de votre corps est intègre, est intacte. Ça, je pense, c'est du côté des puissances vitales qui sont très importantes chez vous au regard de votre histoire. Et il y a une autre part de vous, celle qui est tentée par la sérénité ultime ou la paix ultime, qui a bout de souffrance probablement, et qui peut être tentée par ce que Freud appelle le retour à l'inanimé, parce que parfois, quand on pense à mourir, c'est pas forcément qu'on veut mourir, mais qu'on veut enfin trouver une issue et trouver enfin une forme d'apaisement, enfin que les souffrances s'arrêtent.
Arrêter de souffrir.
Oui, c'est ça. Et là, il y a ces deux puissances en vous, les puissances vitales du côté de ce qui est intact en vous, et les forces, enfin, ce qui est la tendance qui a bout de souffrance et qui voudrait qu'il y ait une issue et que ça s'arrête. Je pense que dans ce combat-là, je pense que c'est vraiment le moment de chercher de l'aide. Je pense que c'est le moment pour commencer un travail sur vous. D'abord, vous êtes consciente de beaucoup de choses dans votre histoire. Vous faites vous-même des liens. Enfin, vous savez ce que c'est que la répétition, vous savez ce que c'est que le passage à l'acte, vous savez ce que c'est que la responsabilité. Donc, vous avez déjà réfléchi à beaucoup de choses. Je pense que maintenant, c'est l'enjeu d'un travail sur vous, ce serait de donner un appui à vos forces vitales, à ce qui en vous est intact et ce qui veut vivre, puisque vous avez survécu à ce premier accident.
Ce que je veux, moi, aujourd'hui, en fait, là où je me sens bien, c'est quand je parle avec des gens qui ont des soucis et que je sais trouver les mots pour les réconforter. Ça paraît bête.
Mais pas du tout, c'était peut-être pas tant une plaisanterie que ça, ce que vous disiez tout à l'heure à propos d'être le maître des cyruniques. C'est peut-être un désir chez vous d'aider les autres.
Moi, je crois qu'il est pour moi. Mais bon, bref.
En tout cas, il y avait quelque chose dans votre phrase. C'était pas tout à fait en l'air.
Mais là où je me sens, du coup, exister, être quelqu'un, c'est quand je peux... par exemple, je voyais une fois une dame dans un bar qui font des concerts, etc. Ouais. Bref, elle regardait dans le vide. Et je me suis arrêté à sa hauteur. Je lui ai dit, vous pensez trop. Et elle m'a dit, non, plus avant, oui, mais maintenant, non. Je lui ai dit, si, vous pensez toujours trop. Et du coup, ça m'a permis d'engager une discussion avec elle. Et à la fin de la discussion, je l'ai pris dans mes bras.
Oui, et à la fin de la discussion ?
Je l'ai prise dans mes bras. Mmh. Et voilà, en fait, si j'ai pu lui apporter quelque chose, en fait, elle ignore, mais elle m'a apporté encore plus en retour.
Oui, votre empathie vous guérit aussi. L'aide que vous apportez aux autres vous guérit aussi. Frédéric, vous avez déjà pensé à professionnaliser ça ? Bon, il existe de multiples façons de le faire. Vous avez déjà pensé à vous former, par exemple, pour donner un cadre à ce désir d'aide, quel qu'il soit, hein, face à plein de choses existent. Pas forcément du côté psy, d'ailleurs. Mais aussi du côté psy, est-ce que vous avez pensé à quelque chose comme ça ?
En fait, avant même mon accident, pas directement côté psy, parce que par contre, j'ignore votre statut professionnel, mais je ne suis pas copain avec des psychiatres.
Je ne suis pas psychiatre, je suis psychanalyste.
Et voilà. Et donc, du coup, ok. Et je ne suis pas copain avec les psychiatres ou des personnes, quand vous leur dites, enfin, ou des professionnels en psychologie, quand vous leur dites ce que je vous exprime, qui vous disent oui, enfin, vous avez une fille, pensez à elle. C'est terrible quand ils me disent ça fait exactement l'effet contraire.
Mais bien sûr, ouais. Parce qu'au fond, Vous, toute votre enfance, vous avez été nié comme sujet. On vous a traité comme un objet rebut, d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, quand vous vous exprimez comme sujet, que vous parlez de vos souffrances et de ce qui vous est arrivé, le moins qu'on puisse faire, c'est de l'entendre. Et de ne pas dire, ah ben vous, vous ne comptez pas, c'est votre fille qui compte. C'est encore une façon de vous nier comme sujet et de vous traiter comme objet. Donc je comprends que ce soit tout à fait insupportable pour vous.
Ben, merci de le dire. Merci de le dire. Vous êtes peut-être une des premières à me le dire. Ouais, vous êtes la seule à me l'avoir dit ça. Et donc j'y avais pensé avant mon accident, ce que vous me demandiez. Mais donc je suis passionné par la musique parce que quand je joue du piano, c'est les seuls moments où je me sens libre. Je me sens léger. Et j'ai la vérité dans les notes, ça ment pas, c'est la vérité. Et donc du coup, je m'étais renseigné pour faire de la musicothérapie. Et du coup, parce
quelle que belle moi, idée. Quelle belle idée.
J'ai été soigné par, j'ai connu un petit peu de résilience de par la musique et voilà.
Frédéric, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage très très fort. Je suis frappée par toutes les réflexions que vous développez, par la conscience que vous avez. Et vraiment, je suis certaine que vous pourrez aider merveilleusement parce que ce que vous avez vécu doit vous donner une empathie très particulière et une intuition très particulière de la souffrance de l'autre.
J'arrête pas de pleurer.
Oui, oui. Frédéric, n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, vraiment. Et prenez soin de vous en prenant soin des autres. Je pense que c'est votre désir aujourd'hui.
D'accord, je te dis juste à dire quelque chose de très important par rapport à la... J'ai dit que j'avais été gendarme, que j'avais commis des violences. Je voulais juste, comme il y a des auditeurs, dire que, attention, ne faites pas l'amalgame avec tous les gendarmes ou les policiers. Ça, il faut juste savoir que c'est juste le reflet de la société. Malheureusement, voilà, il y a des menteurs, des voleurs, mais aussi des gens très bien. Et la majorité des gens sont dans ce métier des gens très bien.
Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir ajouté ce discours de responsabilité.